On vient tout juste d'en parler avec Luc et Nathalie concernant la qualité de l'air dans les écoles au Québec. Et depuis le début de cette pandémie, il y a tout un débat. Des gens qui prônent, par exemple, l'installation de purificateurs d'air. Le gouvernement dit que c'est pas nécessaire. Il y a d'autres experts qui prétendent aussi que c'est pas nécessaire, qu'il faut ventiler les endroits. Et là, Radio-Canada nous arrive ce matin avec une enquête qui nous montre, en gros, que dans 61 % des cas étudiés, la façon dont les tests sur la qualité de l'air ont été réalisés, ça a tiré vers le bas les résultats des mesures exigées par le ministère de l'Éducation. En gros, ce qu'on nous dit, c'est qu'en analysant donc les documents et tout ça, on se rend compte, finalement, que le protocole de mesure de qualité de l'air a été interprété de façon très différente selon les centres de service. Donc, on a fait des tests, classes vides, des tests refaits plusieurs fois jusqu'à ce que les résultats soient bons. Alors, sérieusement, comme parent ou comme n'importe quel citoyen, tu as le droit de t'interroger. Qui a intérêt à faire quoi? Qui sont les gagnants? Est-ce qu'on laisse nos enfants dans des écoles puis des classes où la qualité de l'air est, disons, contestable? Et c'est quoi? Une question d'argent? C'est une question idéologique? Sérieusement, pour beaucoup de parents qui m'écrivent depuis ce matin, ça commence à être embêtant. J'en parle avec Maximilien Debiat, qui est professeur à l'École de santé publique de l'Université de Montréal. Monsieur Debiat, bonjour.
Oui, bonjour.
Première question, quand on veut tester la qualité de l'air dans une classe, dans une école, la façon qu'on doit faire, c'est laquelle?
Lorsque l'on veut évaluer, on parle bien de la qualité de l'air. Ça, c'est déjà un élément intéressant, déjà dans la façon dont on parle de ce test. La qualité de l'air, c'est une évaluation complète là, de la ventilation, oui, mais également de tout ce qui est contaminant chimique, biologique, et même le radon, par exemple. Donc, c'est vraiment une analyse complète. Là, ce que l'on fait, c'est simplement des mesures de CO2 qui sont non pas un test de qualité de l'air, mais qui est un indice de confinement. Donc, déjà, c'est ce que l'on veut mesurer avec une mesure de CO2, c'est vraiment l'efficacité du renouvellement de l'air dans la salle de classe.
OK. Et pour avoir un portrait juste, réel, de la les quantités de CO2 dans la classe,
oui.
Comment on procède pour que ça soit là, vraiment scientifiquement rigoureux?
La première chose qu'on veut, c'est déjà, on veut avoir une représentation de l'occupation normale d'une salle de classe. Donc, on veut qu'il y ait des occupants qui vont générer du CO2 et on veut également donc avoir un portrait représentatif de ce qui se passe. Donc, on est dans une salle de classe du lundi matin au vendredi. Donc, il y a différentes stratégies qui existent, mais par exemple, il y a un indice qui est mesuré, l'indice icône. Il va intégrer les mesures de CO2 du lundi matin jusqu'au vendredi soir, enregistré en continu, et on va noter, on va documenter la présence des élèves, des enfants dans la salle de classe. Donc, c'est une stratégie, complexe, mais qui permet d'avoir des résultats fiables là, au niveau de l'utilisation normale des salles de classe.
OK, mais quelqu'un qui, par exemple, déciderait de prendre des mesures pendant qu'il n'y a personne dans la classe, pendant qu'on vient d'ouvrir les fenêtres, la classe, et on reprend une autre mesure 3 minutes après, ça ne donne pas quelque chose de très solide, là?
Non, ce n'est pas représentatif du tout du degré de confinement. Comme vous l'avez dit, s'il n'y a personne dans la classe ou s'il y a quelques élèves, ce n'est pas du tout représentatif de l'achalandage qu'on aurait normalement, ben évidemment, on ne génère pas de CO2, donc on ne mesure pas de CO2. Si on ouvre les fenêtres en permanence, ça ne représente pas le confinement de la pièce. Donc, ce qu'on démontre avec cette mesure, si on ouvre les fenêtres et on mesure des concentrations de CO2 qui diminuent, par exemple, à la fin de la période de classe, on vient de démontrer qu'en ouvrant les fenêtres, on aère la salle de classe.
Monsieur Debiat, c'est une question que je dois poser, mais je suis pas certain que vous êtes capable d'y répondre, mais je veux quand même la présenter dans l'espace public, là. On a affaire à des gens qui n'ont pas la compétence pour faire les analyses, on a affaire à des gens qui ont un intérêt très précis à avoir un résultat pour pas avoir à investir, ou bref. J'essaie de démêler ça, puis j'ai de la misère à comprendre, là. Il me semble qu'il devrait y avoir un protocole, une pratique établie, puis dans les faits, c'est comme ça qu'on devrait le faire, puis d'avoir des lectures à partir de paramètres qui sont les mêmes?
Mais en fait, je suis très content que vous me posiez cette question, Monsieur Arcan. Je pense que ça fait des années que la qualité de l'air dans les écoles aurait dû être une priorité collective. Là, on parle évidemment du risque de transmission de la COVID, mais bon, on a eu les épisodes de moisissures, hein, vous avez dû traiter ces sujets. On a eu le radon, on a des composés organiques chimiques. Donc, il est grand temps d'avoir un système de regarder la qualité de l'air dans nos écoles, là où nos enfants passent une grande partie de leur temps. Pour revenir à la COVID, c'est certain que le besoin de faire toutes ces mesures, depuis le début, je me questionne un petit peu, parce que finalement, on sait que quand les classes sont petites, il y a beaucoup de monde et il n'y a pas de système de ventilation, le risque de transmission COVID est extrêmement élevé. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que la mesure du CO2, c'est la solution? Dans ce cas-là, écoutez, évidemment, vous l'avez dit aussi dans votre introduction, il y a des stratégies alternatives vraiment dans le contexte de la COVID, comme les unités mobiles de filtration qui seraient en effet un contrôle des aérosols dans ces salles de classe.
OK, parce que, on le voit encore, là, je regardais les derniers chiffres sur les sources d'éclosion au Québec. Il y a deux sources principales, milieu de travail et évidemment les écoles. Je vous pose toujours la question, comme je l'entends en répétition, là. Les purificateurs d'air, je répète, les purificateurs d'air, est-ce que ça donne quelque chose?
Les purificateurs sont recommandés, par exemple, aux États-Unis. Donc, s'assurer d'avoir des filtres et pas, s'assurer de les mettre dans les endroits où le risque est le plus élevé, donc des petites classes. Justement, on nous dit que si les classes sont trop grandes, ça marche pas. Justement, on veut les mettre dans les petites classes, là où il n'y a pas de système de ventilation mécanique et là où on ne veut pas relocaliser les élèves. Donc, les épurateurs d'air, oui, avec des filtres et pas, permettent de réduire les aérosols dans une salle de classe, permettent donc de réduire la transmission COVID, mais ça, c'est certain que ce n'est pas la seule stratégie. Et par exemple, le port du masque en permanence dans les écoles, c'est certainement quelque chose de positif, puisque ça permet à la base de réduire, surtout de réduire la quantité d'aérosols infectieux qui sont émis par les gens potentiellement infectés. Donc, ce port du masque en continu, s'assurer que les salles sont bien ventilées, la distanciation lorsque l'on peut, tout ça, c'est en effet des stratégies qui nous permettent de réduire le risque de transmission et de maintenir nos écoles ouvertes.
Et vous savez, M. Debien, à chaque fois que je pose la question au ministre de l'Éducation, il me répond que je fais le porte-parole des vendeurs de thermopompes. Parce que, comme parents, là, on est inquiet. On sait qu'il y a eu un sous-investissement dans les infrastructures scolaires au Québec, que des écoles ont besoin d'être rénovées, ont besoin d'être ventilées, qu'il y a des classes où les fenêtres ne s'ouvrent pas, il y a même des classes où il n'y a pas de fenêtres, il n'y a pas de circulation d'air, où c'est extrêmement difficile. À sa face même, là, sans aller dans toutes les analyses détaillées, on peut comprendre que dans beaucoup d'écoles du Québec, il y a un problème à la base de qualité de l'air puis de concentration de CO2.
Oui, je pense que des gens qui sont bien formés, là, des étudiants qui sortent de nos programmes en hygiène du travail, par exemple, ce sont des spécialistes qui vont être capables, même sans faire ces mesures. La mesure vient nous aider dans certains cas, mais simplement en analysant une situation. Donc, comme vous l'avez dit, si on a des classes non ventilées, on voit bien, on peut voir qu'il peut y avoir des problèmes de qualité de l'air. Donc, si on voit par l'observation, simplement, au-delà de la mesure de CO2 en tant que telle, on peut voir des problématiques de qualité de l'air.
Merci beaucoup d'avoir pris le temps ce matin, M. Debia.
Merci.
Au revoir.
Merci.
Maximilien Debia est professeur à l'École de santé publique de l'Université de Montréal.